À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Alain Mabankou, écrivain franco-congolais.
Bonsoir Alain Mabankou.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain franco-congolais, romancier, poète, essayiste, connu et traduit dans le monde entier, l'auteur de livres à succès, comme Le Ver cassé, Mémoire de Porc-Épic qui a obtenu le prix Renaudot en 2006, Petit Piment, ou encore Les Cigognes sont immortelles, je n'en cite que quelques-uns. Finaliste du Man Booker Prize International en 2015, Grand Prix de littérature Henri Gall de l'Académie française en 2012, vous êtes aussi le premier écrivain à avoir été titulaire de la chaire de création artistique au Collège de France en 2015-2016. Vous vivez à cheval entre les États-Unis où vous enseignez la littérature francophone à l'Université de Los Angeles et la France où vous dirigez notamment, depuis 2021, la collection Point Poésie au Seuil, votre maison d'édition, où nous enregistrons ces émissions. Vous êtes né Alain Mabankou, vous l'écrivez vous-même, dans un bâtiment délabré de la maternité du district de Muyonzi, en République du Congo, qu'on appelle plus communément Congo-Brazzaville. Vous êtes né le 24 février 1966, tout ça c'est dans les livres. Pays donc le Congo dans lequel vous avez grandi, que vous avez quitté en 1989, et dans lequel vous êtes revenu 23 ans après la mort de votre mère. Retour que vous avez raconté dans Lumière de Pointe Noire. Et comme ce pays, le Congo, est un personnage central de quasi tous vos livres, vraiment quasi tous vos livres, c'est aussi la source d'inspiration de votre littérature. C'est par là que j'aimerais commencer, d'où le titre de ce premier épisode, Congo Curriculum Vitae. Je l'ai emprunté, Congo Curriculum Vitae, à un poème que vous avez rassemblé dans le recueil « Tant que les arbres s'enracineront dans la terre ». Et j'aimerais que vous nous en lisiez quelques extraits, si vous le voulez bien.
Congo Curriculum Vitae. Pays où tout, ou presque, tout est arrivé. Coup d'État en 1963, coup d'État en 1968, coup d'État en 1977, coup d'État en 1979, guerre civile de 1993 à 2002. Pays où, lorsque tout est calme pendant un moment, on s'inquiète en ces termes. C'est pas normal, ça fait maintenant plus de 5 ans qu'il n'y a pas eu de coup d'État ou de guerre civile dans ce pays. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu la main ou quoi? Pays de 341 821 km², c'est petit, mais c'est assez comme propriété privée. Pays avec une fenêtre qui donne sur l'océan Atlantique. Mais les poissons et le pétrole n'appartiennent pas au peuple. Pays où le pétrole est totalement géré par la puissance étrangère qui aura commandité le coup d'État ou fourni des armes pendant une guerre civile. Pays avec une forêt si dense et impénétrable que les animaux en ont marre de tourner en rond. Ils veulent, eux aussi, qu'il y ait des vraies élections. Ils n'ont pas lu le livre d'Amadou Kourouma en entendant le vote des bêtes sauvages. Pays qui a eu pour premier président un abbé, Fulbert Youlou. On l'a assassiné parce que l'abbé ne fait pas le moine. Pays qui a remplacé toutes les salles de cinéma par des salles de prière, des églises de renaissance avec des gourous qui font des enfants à leurs ouailles. Pays où les malades doivent ramener leur propre lit pour être hospitalisés. Pays, le seul au monde, où les militaires sont plus intelligents que les civils. Pays dont Brazzaville fut la capitale de la France libre pendant l'occupation. Pays d'origine des écrivains Sonny Laboutansi, Chikaya Outamsi et Emmanuel Dongala, des musiciens Zao et Passy, des sportifs Joe Wilfried Tsonga, tennis, et Serge Ibaka, basketball aux États-Unis. Pays où est née la société des ambianceurs et des personnes élégantes, SAP. Pays où coule l'un des fleuves les plus importants du monde après l'Amazone, le Congo.
Congo Curriculum Vitae, donc. Merci pour cette lecture, Alain Mabankou. Yeah. Ce que ne dit pas ce curriculum vitae, pas encore, le texte continue, c'est que la capitale, c'est Brazzaville, puisqu'on dit Congo-Brazzaville, mais la ville où vous avez grandi, votre ville, c'est Pointe-Noire. Pointe-Noire est à 500 kilomètres. Mmh. Vous avez grandi dans cette ville jusqu'à vos 23 ans. Vous êtes parti donc en 1989. C'est une ville à la fois à laquelle vous êtes évidemment immensément attaché, mais une ville que vous avez quittée, que vous tenez à distance, et en même temps source d'inspiration, je le disais, puisque c'est la ville où se passe la quasi-totalité de vos romans. C'est un personnage à part entière. Il y a dans un des livres récents que vous avez publié, Le commerce des allongés, une chanson, Ponton la Belle, chanson du chanteur Lully Madeira, leader du groupe African Flash, qui a réellement existé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chanteur pour dire que cette ville est quand même une ville merveilleuse?
Pointe-Noire est une ville splendide, merveilleuse. Et c'est peut-être l'une des plus belles villes du Congo-Brazzaville parce que la ville a une fenêtre qui donne sur l'océan Atlantique. C'est-à-dire qu'elle se prête au voyage, c'est-à-dire qu'elle se prête aussi à l'aventure, c'est-à-dire aussi que c'est par là que sont arrivés des navires de l'époque de la traite négrière. C'est-à-dire que c'est par là aussi que sont partis beaucoup d'individus, d'Africains, vers les Amériques pour ce fameux commerce, toujours de la traite négrière. Mais Pointe-Noire, pour l'enfant que j'étais, était véritablement une sorte de caverne d'Ali Baba. Je connaissais les recoins, je connaissais les raccourcis, les itinéraires B, je savais qui habitait à tel endroit, à quel endroit je devais m'arrêter pour prendre un bus, où est-ce qu'on achetait du
Vélipal. Les fameux bus Fula-Fula qui étaient souvent bondés.
Voilà, ces bus qu'on appelle Fula-Fula. Fula, ça veut dire remplir. Donc Fula-Fula, ça veut dire remplissez,
bien remplissez.
Rempli. Donc un bus, quand il arrivait, ici à 20 places, on pouvait être à 60. Parce qu'il y en a qui vont être sur vos jambes, d'autres vont vous écraser les côtes. Ça veut dire Fula-Fula, remplissez autant que vous pouvez. L'essentiel, c'est d'arriver. Et une fois que le bus était rempli, eh ben les gens se mettaient aussi au-dessus du bus et continuaient dans ce sens. Donc, c'est pour cela que, même pour mon inspiration, c'est une ville que je découvre. Plus j'écris sur Pointe-Noire, plus je me rends compte qu'il ne me suffira pas d'une seule vie pour explorer cette ville dans son immensité la plus profonde ou la plus absolue. Donc, pour moi, ça reste la ville littéraire, la ville du poète congolais qui s'appelait Jean-Baptiste Tati Lutard, la ville d'un autre poète congolais qui s'appelait Félix Tshikaya. Donc, c'est d'abord la ville de la poésie, la ville de l'économie, la ville de la débrouille, la ville où il y a le plus grand marché qu'on appelle le grand marché de Pointe-Noire, la ville aussi, où il y a le centre-ville qui a gardé son aspect colonial, la gare du chemin de fer Congo-Océan qui se trouve à côté, eh ben, c'est la réplique de la gare de Deauville en France. À l'époque, on demandait à l'architecte de tracer une gare dans les colonies, il s'embêtait pas, il prenait le duplicata ou quoi là, il amenait la réplique. Nous avons la doublure de la gare de Deauville à Pointe-Noire. Et je crois que cette gare est tellement belle qu'elle a préservé vraiment son aspect de l'époque et que je crois que les autorités étaient en train de penser, ou si c'est peut-être déjà fait, de classer ça comme un monument patrimoine de l'UNESCO. Parce que la beauté est tellement presque historique que la splendeur est demeurée immuable.
Bah d'ailleurs, dans Le commerce des allongés, vous écrivez que Pointe-Noire conserve jalousement son passé de ville coloniale.
Oui.
Le rond-point rappelant la ligne de démarcation entre ce qu'était autrefois la cité blanche et les quartiers indigènes, et que les références à la France sont constantes. Par exemple, le quartier le plus huppé de Pointe-Noire était surnommé, en tous les cas du temps de votre enfance, le 16e arrondissement.
Oui, il y a toujours cette extrapolation. Et puis, c'est normal parce que vous allez toujours trouver des avenues du général de Gaulle, Félix Eboué, des noms des anciennes autorités de la puissance coloniale qui sont toujours présents. Je pense que le Congo-Brazzaville a su préserver peut-être sa spécificité en ne se laissant pas bercer par le courant du temps. Par exemple, s'il fallait décider, on aurait pu changer même le nom de Brazzaville, puisque Brazzaville tient son nom de Savornion de Brazza, qui était l'explorateur envoyé par les Français pour la quête des terres. Donc, Savornion de Brazza est celui qui avait planté le drapeau français sur cette rive du Congo, où c'est devenu le Congo-Brazzaville, tandis que de l'autre côté, en face, la République démocratique du Congo, c'était du côté des Belges, et c'était l'explorateur Stanley qui l'avait fait. Donc, l'aspect colonial a disparu du côté de la République démocratique du Congo. Le nom ne s'appelle plus Léopoldville, comme à l'époque du roi Léopold de la Belgique. Il s'appelle Kinshasa, tandis que nous, Brazzaville, qui s'appelait Mfoa, donc un nom traditionnel, et ben, c'est resté Brazzaville jusqu'à présent. Voilà. C'est un peu le côté congolais, intellectuel, parfois de l'autoflagellation.
Alors, on peut retracer la sociologie, hein. 4 arrondissements, 83 quartiers. Ouais. Le premier arrondissement, celui de Patrice Lumumba, qui contient le centre administratif et commercial, le quartier des expatriés européens, de la petite bourgeoisie noire également, rebaptisé par les plus pauvres le quartier MTV, M'as-tu vu, par exemple.
Voilà, MTV.
Qui contraste avec le quartier populaire, notamment le quartier 300, qui est coupé en deux par l'avenue de l'Indépendance. Vous voyez, on lit beaucoup de choses dans vos livres. On est vraiment avec vous au Congo et surtout en particulier à Pointe-Noire. Quand vous êtes revenu à Pointe-Noire en 2012, donc 23 ans après avoir quitté le pays, vous avez trouvé que la ville ressemblait à celle que vous aviez quittée ou que c'était très différent?
C'était différent. Je dirais pas très, mais c'était différent dans la mesure où certaines traces de mon enfance avaient disparu. Certains quartiers avaient changé de visage, certains lieux avaient perdu leur importance de l'époque. Par exemple, le cinéma Rex, où nous regardions les films, n'était plus un cinéma, c'était devenu une église de réveil. Donc, il n'y a plus de cinéma là, c'était plutôt des gens qui allaient tous les dimanches à l'église, au service d'un gourou. Et puis, certains quartiers se sont peut-être un peu désagrégés, mais il reste que, en tant que celui qui a vécu là-bas dans les années 70, 80, voire même un peu 90, je ressentais l'esprit. L'esprit était là, l'esprit était gardé par la côte sauvage, l'esprit était gardé par ces bâtisses qui n'avaient pas été démantibulées, l'esprit était gardé par la seule mosquée qui se trouve à côté du grand marché. Et puis quand j'entrais dans le grand marché, cette clameur, le côté multicolore des pagnes de ces commerçantes me laissait un peu dans cette nostalgie perpétuelle qui est la source de ma création. Donc pour un écrivain, l'écrivain n'a pas forcément besoin de l'apparence physique de ses souvenirs. Il a simplement besoin de ressentir un air de musique qui s'échappe quelque part, un parfum, un personnage bizarre qui passe, le pousse-pousseur, vous savez, celui qui transporte d'un quartier à un autre les marchandises pour les autres, mais dans son pousse-pousse, comme on dit, eh ben, dès que je voyais cela, eh ben, ça me replongeait dans cette époque merveilleuse de l'insouciance.
À cette époque, donc en 2012, vous étiez invité par le Centre culturel français. En tous les cas, c'était le nom de l'époque, pas en 2012, mais quand vous étiez enfant. Il est devenu l'Institut français du Congo à Pointe-Noire, ce que les habitants, dites-vous, n'ont pas toujours apprécié. Oui. Vous étiez invité à donner une conférence. Ce centre culturel, qui est pas très loin d'un rond-point, le rond-point Kassai dans le centre-ville, très français d'ailleurs, ce centre culturel contenait, quand vous étiez enfant, la bibliothèque de Pointe-Noire. Ça, c'est une source intarissable, d'abord de souvenirs, et puis effectivement de nostalgie, parce que vous fréquentiez beaucoup cette bibliothèque à la Mabankou. Vous racontez d'ailleurs que vous preniez les livres de façon très particulière. Racontez-nous.
Non, parce que c'était le lieu de la culture pour nous, le centre culturel français. Aujourd'hui, on dit Institut français. Quand on était à l'école primaire, c'était difficile pour les parents d'avoir de l'argent pour acheter les livres. Donc, on avait des abonnements, on allait lire dans ce centre culturel français. Mais c'était la première fois aussi qu'on découvrait qu'est-ce qu'une bibliothèque. Les livres étaient bien rangés, les auteurs par ordre alphabétique, si bien qu'à cet âge, quand on arrivait, On pensait que pour lire, il fallait commencer les livres par ordre alphabétique tels qu'ils étaient vraiment rangés par la bibliothèque. Donc, on commençait par la lettre A pour finir jusqu'à la lettre Z.
Quand on arrive à la lettre voilà. Z, c'est admiratif, je pense.
Et donc, chaque fois, on ne comprenait pas. Il y avait toujours les embouteillages du côté de la lettre A et B parce que ça prenait du temps. Il y avait de gros romans, des grands auteurs. Si vous êtes tombé à cette époque-là sur Céline, il vous faut d'abord finir Voyage au bout de la nuit pour passer Mort à crédit. Alors, vous allez passer des années là-bas et en plus vous allez tomber si vous êtes plus rapide du côté de Camus. C'est pas possible, vous patinez et arrivez à D. Ah, Dostoïevski, Diderot, mais ça fait beaucoup. Alors, ce qui arrive, je sais pas, jusqu'à la lettre Z, c'était rare. Et donc, pour épater les filles, parfois, et voilà, quand on sentait que les filles allaient monter les escaliers...
Avec Germinal,
voilà,
de Zola.
Zola, on mettait sous les aisselles, et la fille vous regardait avec délectation, dit, vous avez fini toute la bibliothèque, et là, vous opiniez du chef, hein, comme si la gloire qui était la vôtre, vous devenez l'intellectuel du quartier. Et donc, c'est pour ça que lorsque j'étais venu en France, justement, avec des amis à Nantes, je raconte souvent cette histoire... Et on était en train de regarder la télé, c'était à l'époque une émission de Bernard Pivot qui passait. Hein? Et on tourne la télé, Pivot dit, tout de suite nous recevons Jean Dutour. Ah, moi je tourne vers les amis, je dis, mais je l'ai déjà lu. Alors les petits Français, quoi? Mais en Afrique, vous avez lu le Dutour, comment vous avez fait? Et je leur ai tout simplement dit, je l'ai lu parce qu'il était très bien placé.
Voilà. Et ils n'ont pas compris.
Ils n'ont pas ils compris. Mais moi, je me comprenais parce que du tout, c'était la lettre D. J'étais arrivé à la lettre D.
Alors, Maman Cou, il y a un autre endroit où vous trouviez des livres. Oui. C'était par terre, dans les librairies qu'on appelait à ce moment-là les librairies par terre qui se trouvaient, vous l'avez évoqué tout à l'heure, devant le cinéma Rex. Voilà. Ces librairies, bon, c'était les livres étalés par terre, vous vous serviez. Oui. Et vous dites que le titre le plus demandé à l'époque, c'était « Sang d'Afrique » de Guy Descartes.
Oui, Sang d'Afrique de Guy Descartes, et d'ailleurs, je crois souvent le fils de Guy Descartes, qui s'appelle Jean Descartes, et quand je lui en parle, il a pratiquement les larmes aux yeux, parce que les romans de Guy Descartes symbolisaient la littérature populaire. La littérature populaire, c'est la littérature qui arrive jusqu'au peuple. C'est une littérature qui n'est pas sélectionnée par les élites assises quelque part et qui disent ce qu'il faut lire, c'est-à-dire les mêmes, à la recherche du temps perdu, bref, les livres qui vous feront paraître plus intelligents que vous ne l'êtes. Alors donc, nous, ce qu'on avait, c'est cette littérature que les Français qualifiaient de littérature de romans de gare, des romans à l'eau de rose, les harlequins. Et Guy Descartes était arrivé à un moment où... Il avait écrit sur l'Afrique. Il avait un livre, un roman qui s'appelle « Sang d'Afrique » en deux tomes. Tome 1, ça se passe en Europe. Tome 2, ça se passe en Afrique. Mais l'introspection qu'il avait faite de l'Afrique nous avait épatés et on achetait ces livres par terre devant les cinémas. Et quand on avait plusieurs titres de Guy Descartes, on pouvait s'échanger entre les amis. Tu as Sang d'Afrique? Oui, je te donne le tome 2, tu me prêtes La Révoltée. Alors on te prête La Révoltée et puis La Brute, qui était un des romans les plus recherchés aussi parce que c'était un sourd, muet, aveugle qui avait été accusé d'avoir assassiné sa fiancée dans la traversée, je sais pas, de l'Atlantique ou quoi, dans un paquebot. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et tout le long de l'intrigue, c'était l'écharpe et le parfum de la femme qui allait servir d'élément pour innocenter pratiquement ce sourd, muet, aveugle qui en réalité n'avait pas commis les crimes, mais qui voulait endosser tout par l'amour, pour l'amour. Extraordinaire. Guy Descartes a quand même nourri des écrivains. Moi, j'ai vécu, je n'ai pas honte à dire que la littérature populaire a été essentielle pour ma respiration. Voilà. Et par la suite, on trouvait aussi les romans de San Antonio. Et aujourd'hui, je suis content, par exemple, que Fleuve Noir, les éditions, la collection, me demandent de parrainer pratiquement les romans de Guy Descartes. Et j'en suis très fier. C'est peut-être un des accomplissements littéraires importants pour moi.
À la main, bon coup, ce quartier où il y avait les librairies par terre, devant le cinéma Rex, devenu église du réveil, à votre grande âme d'ailleurs, ce quartier, c'était un des trois points avoir marqué en rouge dans votre carnet quand vous êtes revenu à Pointe-Noire, avec la maison de votre mère, mmh. dont on parlera un peu plus mmh. tard, et le lycée. Ces trois lieux qui ont beaucoup compté dans votre enfance, mmh. ces trois lieux qui sont reliés l'un à l'autre ?
Oui, ces lieux sont reliés parce que c'est à la fois les lieux de l'école, c'est à la fois aussi les lieux des jeux, c'est aussi les lieux de la découverte. Le cinéma, comme on l'a dit, parce que c'est là que nous découvrions le cinéma français, les premiers films de karaté à cette époque-là, dans les années 70.
Qui Bruce Lee.
Bruce Lee. Mais même avant Bruce Lee, ce qui était important pour nous, c'est qu'on avait vu pour la première fois un film de karaté fait par des Noirs, avec des acteurs noirs. Il y avait, je crois, Jim Kelly, Jim Brown et Fred Williamson. Donc, Jim Brown, lui, c'était un footballeur noir de Cleveland, footballeur américain, mais on ne savait pas. Pour nous, c'était trois Noirs américains qui pratiquaient du karaté aussi bien que Bruce Lee. Bon, les scénarios étaient un peu lourdins, comme on dit chez les jeunes. Il n'y avait rien à mâcher parce que vous avez quelqu'un qui traverse la rue, l'autre aussi qui traverse la rue, ils se bousculent et tout d'un coup, le combat commence. Donc, il n'y a pas vraiment... Ce qui comptait, c'est qu'ils puissent nous montrer les techniques de karaté et les dialogues. Oh là là, ma mère m'a donné ce nom pour qu'on me respecte. Bah franchement, hein, on pourrait faire mieux à cette époque, mais... Mais c'était déjà quelque chose d'important pour nous. Donc ce quartier Rex, dans lequel vivait mon oncle, eh bien, ce quartier était pour moi le quartier vraiment de l'émancipation dans mon adolescence. Quand j'entends Rex, c'est l'adolescence. Quand j'entends les autres quartiers comme Vungu, c'est l'enfance. Et quand j'entends le centre-ville, ça y est, je sens déjà le départ du côté de Brazzaville.
Film.
Oui.
Restons sur les films, parce que vous avez commencé.
Oui.
Les films de karaté, films américains,
oui.
Clint Eastwood aussi,
oui.
Avant Bruce Lee. Films oui. français, les Louis de Funès, par
oui.
exemple.
Oui.
Et puis les films indiens. C'était à peu près les trois zones géographiques
oui.
qui étaient projetées dans ce cinéma, le Rex.
Oui,
il y en avait trois, des cinémas. Hein.
Voilà, il y avait trois cinémas. Vous avez le Rex, le Duo et le Roy. Roy ou Roy, R-O-Y, mais c'est pas nous, on appelait Roy. Donc... C'était trois salles de cinéma, et à l'époque, le cinéma ne se faisait pas par des méthodes digitales comme maintenant. À l'époque, on amenait les pellicules. Donc, il y a une petite fourgonnette qui arrivait devant le cinéma, ils sortaient la pellicule, et on commençait le film, par exemple, au cinéma Rex, et puis on attendait que cette pellicule finisse, on met la deuxième, donc la suite du film, puis on prend la première pour amener dans l'autre cinéma, puisqu'on n'avait pas quatre mondes, c'est les mêmes. Donc, parfois, on arrivait au milieu du film, on devait attendre une demi-heure parce que la pellicule continuait à tourner du côté du cinéma Roy et que ça devait arriver à ce moment-là. Donc, pour moi, le cinéma, c'était l'attente. Et quand on arrivait, on riait avec Louis de Funès. Et puis, on avait l'évasion vers le Far West avec Clint Eastwood qui était là, Lee Van Cleef, les westerns qui étaient là. Et puis, il y avait le western spaghetti aussi, hein, du côté de Trinidad, etc. Et surtout aussi, peut-être, les films qui nous intéressaient, c'était les films romantiques, c'est-à-dire les films indiens venus de l'Inde. Hein. C'était toujours des histoires d'héroïsme, de sorcellerie, de magie, de force herculéenne. Et nous chantions même des chansons de l'Inde sans comprendre les paroles. Nous le faisions par la phonétique, tout simplement. Donc, la vie des Congolais de cette époque, comme moi, c'était, vous regardiez les films français, Jean-Paul Belmondo, Peur sur la ville, Alain Delon, tous ces films-là, les Catherine Deneuve, voilà, nous avions des posters de tout, hein, on avait les Salut les copains, les Johnny Hallyday, il y avait sa photo à l'intérieur du cinéma Rex. Il avait les cheveux tellement blonds que nous pensions qu'il était albinos. Et pour moi, c'était la période la plus exaltante, puisque j'ai découvert une culture qui était lointaine et qui nous permettait de rester entre amis et de parler des choses que nos mères ne connaissaient pas, parce que ma mère, la culture française, elle n'était pas allée à l'école pour cela. Elle avait la culture traditionnelle et c'est mon père qui était plutôt... du côté de la culture occidentale.
J'évoquais le lycée également, oui. Le lycée anciennement Karl Marx,
oui.
Devenu Victor Augagneur.
Oui, en fait, c'était même pratiquement le contraire. C'est-à-dire, c'était d'abord le lycée...
C'est revenu à l'ancienne. Voilà.
C'était le lycée Victor Augagneur, parce que nous étions à l'époque coloniale. Donc, à cette époque-là, les bâtiments officiels avaient les noms des colons, des religieux, des explorateurs, etc., etc. Et au moment de l'indépendance du pays... on a commencé à un peu pratiquer la politique de l'authenticité. C'est-à-dire qu'il fallait que les Africains puissent avoir des repères africains. Et de ce fait, tous les établissements avaient changé leur nom. Le lycée Victor Augagneur n'était plus Victor Augagneur, il était devenu le lycée Karl Marx, tout simplement parce que le pays avait embrassé le régime marxiste-léniniste.
Alors que le collège des Trois Glorieuses, où voilà, vous êtes allé, n'a voilà, pas changé de nom.
Le collège des Trois Glorieuses n'avait pas changé de nom à mon époque parce que ça symbolisait la révolution. Les 13, 14 et 15 août étaient censés être la date de l'indépendance du Congo. Donc, le sacrifice suprême. Alors qu'on appelait le collège des Trois Glorieuses, des Trois Journées de notre gloire. Et voilà. Et c'est là que j'ai pris mes classes de troisième jusqu'en terminale.
Bon, il y aura encore beaucoup à dire. Le quartier Bloc 55, où se déroulaient les courses au cerceau pour lesquelles vous excelliez. Ouais. Le stade Tata Luboko, où vous assistiez à des matchs.
Ouais.
Mais bon, on va terminer cette première émission en parlant des quartiers où vous avez grandi. Vous les évoquiez à l'instant. Le quartier Vungu, où vous viviez avec votre mère et où vous alliez à l'école primaire. Le quartier Joli Soir, évoqué dans le commerce des allongés notamment, où vivait la deuxième femme de votre père. Et le quartier de Komapon, plus aisé, où vivait votre oncle René, tonton René, et vous êtes allé donc au collège et au lycée.
Mmh.
Au milieu de tout ça, la maison de votre mère, achetée par votre mère, tout ça, ça sera le sujet de l'émission de demain. Merci beaucoup, Alain Mabankou.
Merci beaucoup.
Et à demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Stéphane Foulon, réalisation Laure-Hélène Planchet, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.